Le Mac de Cahors, c'est maintenant sur CFM Radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. À quelques semaines des municipales à Cahors, de nombreux projets et priorités se dessinent pour la ville. Le premier tour, je vous rappelle, c'est le 15 mars et le second le 22 mars. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui Elsa Boujard, tête de liste de Cahors en commun. Bonjour Madame Boujard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre liste Cahors en commun, soutenue par la France Insoumise, propose une vision ambitieuse pour Cahors dans différents domaines, social, environnemental, mobilité, culture, bien sûr l'inclusion également je crois, et puis l'accessibilité aussi.
Tout à fait.
Nous allons revenir sur vos priorités et bien sûr sur vos projets concrets et notamment sur une initiative originale vous avez organisée récemment. J'ai vu dans la presse une marche exploratoire dans les rues de Cahors avec une personne malvoyante. Nous avons prévu 20 minutes pour en parler, comme pour chaque tête de liste qui se présentera à ce micro. Madame Boujard, avant de commencer, est-ce qu'en deux minutes vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour Cahors?
Donc, je suis Elsa Boujard. Je suis arrivée dans le Lot il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'étais cadre dans l'industrie, en prévention des risques techniques et professionnels. Et lors de mon choix de venir habiter dans le Lot, j'en ai profité pour faire une reconversion professionnelle dans l'environnement. Je me suis engagée en politique à peu près au même moment, notamment sur deux préoccupations majeures. Le réchauffement climatique et notamment une volonté de changer les institutions et de changer la façon de faire la politique via ce projet de la 6e République. Et pour Cahors, je me suis engagée déjà il y a 6 ans aux côtés d'un collectif et je renouvelle cet engagement puisque simplement il y a beaucoup de choses à changer à Cahors, il y a beaucoup d'atouts à conforter, des quotidiens qui doivent aussi changer, notamment dans le terme pour l'accessibilité aux services publics, l'égalité, le pouvoir d'achat et notamment sur la question écologique.
Alors en quelques mots, bien sûr, je vous pose la question traditionnelle. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour Cahors dans les années qui viennent? Quel est votre projet? Quels sont vos projets?
Alors nous avons plusieurs axes et en fait des lignes de conduite qui dirigent notre action politique et notre projet. Faire de Cahors une ville accessible aux plus fragiles. J'entends par là les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap aussi, mais les personnes aussi qui vivent dans la précarité. Puisque construire une ville pour les plus fragiles, les aménagements et les adaptations qu'on va pouvoir faire, en fait, vont bénéficier à tout le monde. Et ça nous permettra d'avoir une ville plus apaisée, plus accueillante et donc aussi plus attractive. Ensuite, un autre point important est celui de l'adaptation au réchauffement climatique de notre ville, mais aussi de la réduction de notre impact à Cahors, de notre impact collectif sur le changement climatique. Et ce qui va nous différencier, je pense, très clairement de toutes les listes, c'est de faire la démocratie autrement. On assiste aujourd'hui à quelques outils de consultation, de dite concertation, mais j'ai assisté pendant 6 ans de mandat à en fait une décision qui n'appartenait qu'aux élus. Et c'est cela qu'on veut changer en replaçant vraiment les citoyens au cœur de la décision et de la construction, parce que on est aujourd'hui dans une aspiration des citoyens. 80% des Français veulent participer aux décisions qui les concernent. Et donc, pour ça, on propose des outils comme le référendum, des votations citoyennes.
Comment votre liste souhaite-t-elle concilier social, environnement, urbanisme dans votre programme? Comment vous allez préparer tout ça? Quels sont vos objectifs premiers, en fait, si jamais vous êtes élu?
Alors, en fait, le social et l'écologie vont assez bien ensemble, puisque une politique écologique, si on part des besoins des plus fragiles ou des plus précaires, va être une politique ambitieuse. Je pense, par exemple, notre proposition sur les cantines scolaires. On a aujourd'hui la chance d'avoir une cantine scolaire en régie publique, et c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. On veut pouvoir augmenter la part de produits bio et local dans cette cantine, et surtout, en termes d'accessibilité, renforcer la progressivité de la tarification, parce qu'aujourd'hui, on a des zones dans la tarification. La tarification est faite sur le quotient familial, mais selon la limite du quotient familial, des fois, ça peut représenter un coût important. Donc, augmenter la progressivité dans la tarification et aussi permettre la gratuité de la cantine pour les ménages sous le seuil de pauvreté.
Ça fera partie de vos chantiers prioritaires dès le départ, ça ?
Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a 30% des moins de 30 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Moi-même, je suis enseignante à Cahors et je connais des cas de familles qui ont des difficultés à nourrir, comme partout en France, hein, c'est pas propre à Cahors, mais à nourrir leur famille. Et clairement, la cantine scolaire est un vecteur, un, d'éducation à l'alimentation, ce qui est important aujourd'hui dans les changements nécessaires, et aussi un vecteur d'égalité.
Alors, le 7 février dernier, vous avez organisé une marche exploratoire dans les rues de Cahors avec une personne malvoyante. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette expérience ?
Alors, avec deux personnes malvoyantes exactement, puisqu'on avait une personne invitée de l'extérieur avec qui on avait pris en contact, et une personne de notre liste qui est également malvoyante. Et cette question de l'accessibilité, en fait, est venue assez naturellement, puisque ce que je vous disais, on réfléchit la ville pour les plus fragiles. Et quand on pense aux plus fragiles, forcément, on pense aux personnes en situation de handicap. Et on se questionne énormément sur l'aménagement urbain qui a été fait, sur comment le faire pour notamment concilier l'aspect écologie, l'aspect social et l'aspect accessibilité. Et on a eu cette opportunité de ces deux personnes donc, qui étaient partantes et enthousiastes pour nous faire découvrir les difficultés. Et cet outil de marche exploratoire, en fait, c'est un outil qui est utilisé dans beaucoup de communes pour construire des décisions, pour construire des projets politiques, des projets d'aménagement. Et elle est intéressante parce que sur un endroit... voilà, on est dans une zone, là on s'est concentré sur le centre-ville, mais on aurait pu le faire ailleurs. On va voir de manière très concrète les points noirs, les bons points, voilà, les choses qui sont satisfaisantes et les points noirs qu'il faut améliorer. On se rend compte qu'il y a des situations qui existent depuis longtemps, mais on se rend compte aussi que dans des aménagements très récents, comme la place Imbert, eh ben, il y a des problématiques d'accessibilité.
Ouais, ça, ce sont les problèmes essentiels que vous avez vus en vous baladant, j'oserais dire, entre guillemets, dans la ville de Cahors.
Oui, et en fait, cet outil, il est vraiment... on a voulu le faire aussi dans le cadre de la campagne, parce que là, ça reste un échantillonnage, hein, et il faut pouvoir effectivement le dupliquer. Mais cet outil, c'est un marqueur de la façon dont on entend conduire le mandat et dont on entend construire les décisions. On ne peut pas faire d'aménagement sans... permettre à toutes les personnes concernées d'avoir leurs propositions et leur regard. Je pense que qui mieux qu'une personne malvoyante va connaître les obstacles qu'une personne malvoyante. Voilà. Et nous, c'est vraiment de replacer les citoyens dans les projets et dans les décisions.
Oui, mais quels aménagements simples pourraient-ils être réalisés rapidement dans Cahors ?
Alors, par exemple, sur ce projet de Place Imbert, en fait, on a révélé trois... erreurs qui ont été commises. La première est que la voie circulante sans marche se trouve à proximité de la voie de circulation, ce qui génère un stress très important pour les personnes malvoyantes et encore plus fortement pour les personnes non-voyantes. Il y a des marches entre la place et la petite supérette qui est là, qui ne sont pas signalées du tout. Ça, c'est des choses qui auraient pu être pensées tout de suite. Il suffit de rajouter des nez de marche, des choses qui vont permettre de le sentir. Et dans les choix du revêtement, d'avoir des revêtements complètement uniformes, comme ça, sans contraste, vient ajouter des difficultés supplémentaires.
Est-ce qu'on rencontre des problèmes de sécurité à Cahors, et lesquels, et comment comptez-vous y remédier ?
Alors, des problèmes de sécurité, quand on parle de sécurité, il y a beaucoup de domaines.
Oui, c'est vaste.
C'est très vaste. On peut parler de la sécurité routière, où on est régulièrement questionné sur ce sujet, pour la circulation piétonne et la circulation vélo. Et donc là, on a des propositions fortes. En termes de vélo, on connaît les points noirs qui sont très bien identifiés par les associations locales sur lesquelles il faut agir. Oui. On sait que si on veut développer le vélo en sécurité, il faut pouvoir installer des pistes cyclables et non pas des signalisations, ça ne suffit pas. Et en termes de sécurité piétonne, on a vraiment des quartiers qui ont été complètement délaissés. Je pense au quartier Saint-Georges, à la route de Toulouse, où ça peut être même dangereux de circuler. Et aussi une proposition, notamment aux abords des lieux publics, et aux abords des lieux publics où sont accueillis les enfants, aux abords des écoles, de favoriser ce qu'on appelle les rues aux écoles. C'est-à-dire qu'aux heures de pointe, entrée et sortie d'école, ou plus longuement dans la journée, mais au moins aux heures de pointe, pouvoir condamner les rues ou les laisser à sens unique pour sécuriser la circulation des piétons. Jusque-là, ça a toujours été refusé par la mairie. Je pense notamment récemment l'aménagement de l'école Pierre Ségala, où des places de parking ont été rajoutées et ce concept de rue aux écoles a été refusé par la majorité sortante. Donc il y a cet aspect de sécurité routière avec également la limitation de vitesse à 30 km/h que j'avais soutenue à l'époque, mais qu'il faut pouvoir réussir à faire respecter en ville. Donc il y a cet aspect de sécurité. Après, on va voir l'aspect sécurité qu'on va entendre dans les incivilités, hein, que M. Coste a affiché en tête des priorités des cadurciens, ce qui n'est pas forcément ce qui nous remonte, mais néanmoins, on voit qu'il y a un grand débat hein, sur la police municipale, et donc nous, on réaffirme le rôle de proximité de la police municipale au plus près des habitants, une police qui fait du lien, une police qui fait de la prévention.
Vous mettez l'accent sur le social dans votre programme. Vous en avez parlé un petit peu, mais quelles mesures concrètes prévoyez-vous pour soutenir les habitants les plus fragiles ?
Alors, donc, je vous ai parlé déjà de la oui. cantine scolaire. Oui. Il y a un autre point, parmi les habitants fragiles, des familles qui sont un peu des impensées de la politique, qui sont les familles monoparentales, qui représentent quand même une famille sur cinq à Cahors, et dans les quartiers populaires, 40% des familles, qui sont en général portées par des mères, qui subissent très largement des temps partiels, ou souvent des emplois à faible revenu. Et donc pour ces familles-là, il y a deux difficultés, donc celle de l'accès à un emploi, et la difficulté pour elles d'avoir encore plus besoin que les autres du service public. Je pense notamment en termes de garde d'enfants, puisqu'elles n'ont pas forcément le soutien au niveau familial, ben elles vont faire plus appel à la garderie, à la crèche, etc. Et donc ces familles qui ont plus besoin de services publics, dans les tarifications actuelles, ne sont pas forcément prises en considération par rapport à cette spécificité-là. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'intégrer ce facteur de famille monoparentale en lien avec les tarifications sociales pour prendre en compte leurs spécificités dans l'accès aux tarifs sociaux. Une autre mesure qui est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Mesure, pareil, toujours refusée jusqu'alors. Les premiers mètres cubes d'eau indispensables pour que tout le monde ait accès à l'eau. Et ensuite, une tarification progressive, non pas sociale, mais progressive à la consommation pour que les mésusages en fait, viennent financer ces mesures de gratuité qui, là, pour le coup, profiteront à tout le monde et pas uniquement aux plus précaires.
Vous êtes enseignante dans Cahors. Je suppose que vous avez un relationnel un peu intime avec les familles. Les gens viennent vous parler. Vous ressentez les problèmes que ressentent les cadurciens, les cadurciennes aujourd'hui. Ils vous en parlent de tout ça ?
Alors, les parents nous en parlent. Après, on est aussi régulièrement, au-delà des temps de campagne, hein, en porte-à-porte, moi, en tout cas, au sein de l'organisation politique oui. dont je fais partie. Donc, on est un peu tout le temps à prendre le pouls de la population cadurcienne. Et alors, selon les quartiers, bien entendu, les difficultés sociales vont être plus ou moins importantes. Mais ce que je vois surtout en tant qu'enseignante, c'est... les écoles qui ne bénéficient pas du budget qu'elles méritent, au-delà de l'affichage qui peut être fait, quand je parle en termes de rénovation thermique notamment, d'aménagement, mais je parle aussi, par exemple, et ça c'est une mesure sociale pour le coup, en ce qui concerne le service périscolaire, donc tous les temps qui sont en dehors du temps scolaire, le temps méridien ou le temps après la classe, qu'on peut appeler le temps de garderie pour... ceux qui connaissent mieux ce terme, qui est vraiment un facteur d'accès à la culture, au sport, à des actions de vivre ensemble, à la citoyenneté. Et quand la réforme sur les rythmes scolaires avait été faite, l'objectif était que ces temps périscolaires soient des temps, justement, où les enfants auraient accès à des pratiques dont ils n'ont pas forcément la possibilité, ou financière, ou par pratique culturelle familiale, en tout cas. Ils n'y ont pas forcément accès. Et aujourd'hui, à Cahors, on n'a vraiment pas un service périscolaire à la hauteur, puisqu'on a beaucoup d'écoles où, en fait, il y a une animation qui peut être proposée pendant quelques semaines sur l'année. Alors que l'objectif du périscolaire est d'offrir des animations plus régulièrement. Et nous, on prend l'engagement de renforcer les équipes du périscolaire, qui sont des équipes très motivées, mais sous-dotées en personnel et qui, par exemple, n'ont pas de temps de préparation. Dans leur temps de travail, pour garantir à tous les enfants de Cahors au moins une activité par semaine. Ça peut être les animateurs qui la font. Ça peut être des partenaires extérieurs. Et on a la chance à Cahors d'avoir énormément de soutien au niveau associatif, avec le musée, le Carrefour des sciences, la médiathèque, etc. On a vraiment un tissu qui peut permettre d'étoffer. Et c'est vraiment un aspect du service public, hein, de l'éducation, qui n'a pas été pris en compte et qui est vraiment un vecteur d'égalité.
Moi, je me demande d'ailleurs dans ce domaine-là s'il y a des expériences ou des initiatives ailleurs que vous avez envie de reproduire ici. Est-ce que vous avez déjà consulté d'autres villes pour voir comment ça fonctionne ailleurs, peut-être ?
Alors, il y a beaucoup de fonctionnements différents. Il y a des choses qui sont basées uniquement sur le service public, des fonctionnements qui sont basés beaucoup plus sur des partenaires extérieurs. Je pense que, en fait, là, on a les services et les agents qui sont aujourd'hui à la mairie savent exactement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, il manque simplement des moyens pour le faire.
Votre liste est soutenue par la France Insoumise.
Entre autres, oui.
Que vous apporte ce soutien dans votre campagne ?
Alors, la France Insoumise, c'est la garantie pour les électeurs, surtout, d'un projet qui ne va pas se renier. Quand on s'est réunis avec toute l'équipe, en fait, ce qui a été moteur dans l'engagement de nombreuses personnes, c'est les mesures qui étaient portées par le programme du Nouveau Front Populaire à la sortie des élections législatives et auxquelles ont renoncé depuis les socialistes au niveau national mais au niveau local, les écologistes et aussi au niveau local et le Parti communiste. Et donc d'être France Insoumise ne nous apporte aucune contrainte, hein, puisqu'il n'y a absolument aucune implication du mouvement dans la liste. On reste complètement indépendant financièrement, en termes de programme. Mais donne la garantie aux électeurs d'un contenu programmatique minimum. Quand je parle de référendum d'initiative citoyenne, qui va permettre aux citoyens notamment de proposer des projets à l'échelle de la commune, mais aussi de révoquer les élus s'ils ne font pas ce à quoi ils se sont engagés, c'est parce qu'il y a le logo de la France Insoumise que vous pouvez être sûr que ça va être fait. Quand on parle de la gratuité de la cantine pour les plus précaires, c'est aussi ce logo-là qui va vous assurer que on ne lâche rien de ce côté-là.
Qu'est-ce qui distingue le plus votre projet des autres listes en lice justement à Cahors en ce moment ?
Alors des autres listes, il n'y en a pas beaucoup.
Oui.
Ce qui va nous distinguer, c'est principalement la cohérence du programme. C'est-à-dire qu'en termes de bifurcation écologique, notamment, on ne dit pas faire de la bifurcation écologique quand on promet d'ouvrir un parking de 50 places en centre-ville. Voilà, nous on n'est pas dans cette logique-là, on fait de la bifurcation écologique, donc on aura des aménagements urbains tourner vers la bifurcation écologique. On végétalisera et on essaiera plutôt de retirer la voiture en offrant une alternative moins coûteuse aux cadurciens. Et ensuite, l'élément le plus fort et le plus puissant, et qui est très demandé par les cadurciens, c'est vraiment de mettre en place des outils démocratiques. Je vous ai parlé du référendum d'initiative citoyenne. En amont de ça, il faut voter un droit de pétition, ou n'importe quel cadurcien, et on veut l'ouvrir aux personnes de plus de 16 ans, peuvent mettre en route une pétition sur un sujet, et si cette pétition reçoit 5% de signatures des cadurciens, elle sera débattue en conseil municipal, avec une réponse des élus, prise ou pas prise, mais en tout cas, il y aura une réponse motivée, quoi qu'il en soit, du conseil municipal. Et si cette pétition recueille 10% des signatures, le conseil municipal s'engagera à organiser un référendum d'initiative citoyenne et s'engagera bien entendu à respecter le résultat si la participation est au moins de 50%. Ensuite, deuxième outil, c'est d'avoir des conseils de quartier dotés d'une équipe d'animation qui vont permettre notamment d'aller chercher les personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes aujourd'hui à participer, des conseils de quartier qui vont avoir des garderies pour les enfants, pour que je vous parlais des familles monoparentales, que les mamans solo puissent aussi participer, par exemple. Et ces conseils de quartier auront un budget participatif autonome, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les budgets participatifs sont soumis au bon vouloir des élus. Là, ils seront autonomes, sans contrôle des élus, dans la limite des compétences de la commune et de la légalité, bien entendu. Donc ça, ce sont quelques exemples vraiment d'un fonctionnement autre. On ne peut plus avoir des élus qui ont toujours, toujours la décision finale. C'est ce que j'ai vu pendant 6 ans. Quand on a proposé que les citoyens puissent intervenir au conseil municipal dans une façon cadrée, avec une question posée à l'avance, préparée, ça a été refusé. Quand on a proposé le référendum d'initiative citoyenne, ça a été refusé. Quand on a dit, face au Covid, il y a des priorités budgétaires qu'il faut revoir, il faut organiser un débat et une votation citoyenne, ça a été refusé. Et c'est vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus possible. La défiance et le dégoût et la déception des citoyens vient aussi de pratiques démocratiques qu'il est temps de révolutionner.
On arrive à la fin en une phrase. Si vous deviez résumer votre ambition pour Cahors en une phrase, quelle serait-elle ?
Faire de Cahors une ville à la pointe de la bifurcation écologique et utiliser cette bifurcation écologique comme un vecteur d'égalité, de bien vivre et surtout placer le citoyen au cœur des décisions.
Voilà, la phrase, elle est faite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Madame.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir répondu à nos questions et puis surtout d'avoir partagé votre vision pour Cahors. Alors, nous rappelons que vous êtes tête de liste de Cahors en commun pour les municipales qui arrivent, là, 2026. Merci et puis bonne campagne.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.